Radio Okapi. Le journal présenté par Patience Ngaloula.
D'abord les titres. Les services de lutte antimine des Nations Unies UNMAS procèdent pendant 3 jours successifs à la destruction des restes des guerres et des engins non explosés à Lubérizi, dans les territoires d'Ouvira au sud Kivu. Ainsi, la population est appelée à garder son calme malgré les souffles de ces engins qui seront entendus dans cette région. 60 enfants orphelins sauvés de justesse de l'incendie de leur domicile par des voisins ne savent plus à quel saint se vouer. Tout est parti en fumée à l'orphelinat Lisanga Christo. Le bourgmestre de la commune d'Engaba lance un SOS aux gens de bonne volonté pour voler au secours de cet orphelinat. L'invité de ce journal est Henri Kitenge, point focal des travaux financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est de la RDC, Step 2 au Nord Kivu. Il revient sur les dispositions prises pour la reprise des travaux d'assainissement et de réhabilitation des rues et avenues de la ville de Beni après 5 jours d'arrêt. Bonjour à tous. Ce journal part du Sud Kivu où les services de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, va procéder mardi, mercredi et jeudi pendant 3 jours successifs à la destruction de restes des guerres et des engins non explosés à Lubérizi dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Ouvira. Il s'agit d'une opération de destruction par explosion et détonation des munitions et bombes défectueuses qui appartenaient au casque bleu pakistanais après leur retrait des Kamanyola. À cette fait, la population est appelée à garder son calme malgré les souffles de ces engins qui seront entendus dans cette région. Fiston Goma Mayabala.
L'opération se fait par brûlage et explosion à l'air libre de munitions défectueuses et de bombes. Les munitions sont regroupées dans une cave de 2 mètres dans le sol et détruites par explosion en utilisant les charges explosives aptes au service. Le procédé s'obtient par explosion des charges de démolition en contact étroit avec les pièces de munitions et ne convient donc qu'aux munitions à haut pouvoir explosif. Une technique qui ne présente pas de danger, surtout que l'opération s'effectue dans la brousse de Tenge Tenge à plus de 3 km du centre de Nyamugali dans le groupement de Lubérizi. L'administrateur du territoire d'Ouvira Mabiswa Selemani s'est rendu sur place à Lubérizi ce week-end pour sensibiliser la population civile et les chefs locaux à coopérer avec cette équipe de déminage. Signalons que quelques jeunes ex-combattants désœuvrés ont été recrutés sur place pour aider dans cette opération à Tenge Tenge. L'équipe UNMAS MONUSCO rassure que des sentinelles ont été déployées pour nettoyer la zone bien avant l'opération de la détonation et maintiennent une ligne de vie dégagée au-dessus de la zone dangereuse pour garantir qu'aucun civil ne soit en danger. D'Ouvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Okapi.
Du Sud Kivu, rendons-nous au Nord Kivu, où le tribunal militaire des garnisons de Goma a prononcé ce week-end la peine de mort contre un militaire des FRDC du commandement du camp militaire Katindo. Ces soldats avaient criblé des balles une femme enceinte qui l'aurait confondu, selon ses termes, avec un monstre dans la nuit du 3 au 4 avril courant. Gabriel Wamenya nous fait le point.
Ce soldat condamné s'appelle Seru Gobuhera, au grade de sergent-major. Ce dernier était commis à la garde au poste barrière près de l'école primaire Tongilo à l'entrée du camp militaire Katindo. Selon ses dépositions devant le tribunal militaire qui a instruit l'affaire en procédure de flagrance, avant de cribler la défunte femme enceinte de 10 balles, il aurait vu une silhouette qu'il aurait prise pour un monstre avançant vers lui. Ces alibis ont été qualifiés de fallacieux par divers témoins. À en croire le tribunal militaire, ces soldats avaient pris de force cette femme enceinte avant de la violer. C'est lors de la dispute entre lui et la victime qu'il décide alors de mettre fin à la vie de la dite femme en lui tirant 10 balles dans la poitrine. Rappelons qu'après les prononcés, ces militaires reconnus comme récidivistes a interjeté appel. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, dans la ville de Butembo, où 2 maisons de transfert d'argent ont été braquées par des hommes armés lundi soir aux environs de 19h à Kitatumba, dans les quartiers Congo et Asika. D'après la société civile de la commune de Vulamba, les présumés bandits ont tiré des coups de feu pour inquiéter les tenanciers de ces cash-points avant d'emporter de l'argent ainsi que quelques biens. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, cette structure citoyenne exprime son inquiétude face à ces modes opératoires devenus récurrents dans ces coins de la ville. Elle plaide pour l'implication des autorités compétentes afin que ces réseaux de malfrats soient démantelés. Jean-Baptiste Moussaï, le président de la société civile de la commune de Voulamba, est au téléphone de Grévis Saloumou.
Dans l'intervalle de 45 jours, 4 cas de braquage viennent d'être enregistrés au quartier Congo Yassikatoussel, à commune Voulamba. Ce sont des faits qui se produisent pendant que la circulation est encore intense. Alors que les services habilités manifestent une certaine passivité face au cas de l'insécurité enregistrée au quotidien. La société civile Force Vive Noyau de Voulamba recommande à l'autorité locale en tant que président du conseil de sécurité de préserver sans délai la paix et la sécurité dans cette partie de la commune, à l'auditorat militaire de mettre en mouvement l'action publique contre tout présumé auteur de vols à main armée pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. À la population d'être vigilante et d'anticiper toujours les faits par des alertes.
Tout en confirmant la nouvelle, le commissaire supérieur principal Roger Moa Baekiteli, maire de Butembo, annonce l'ouverture d'une enquête. Et puis cette nouvelle, la pauvreté est l'une des causes qui pousse des jeunes filles déplacées à la débauche au site Umoja de Kaseni à la plaine du lac Albert qui héberge plus de 600 personnes en provenance principalement du territoire des Djougou. D'après le président du site, Tepe Gombi, les parents qui sont démunis n'arrivent plus à prendre en charge les besoins de leurs enfants. Face à ces défis, une campagne de sensibilisation s'est faite par des différentes organisations pour décourager cette pratique. Pour ces quinquagénaire, la solution durable passe par l'autonomisation de ces déplacés dont la plupart souhaitent regagner leur village ou être réintégrés dans d'autres milieux sécurisés. Tepe Gombi est au micro de Jean-Claude Lokidile.
C'est par exemple un adulte qui, avec 2000 ou 5000 francs, va tromper une fillette de 15 ans. C'est ce qui fait que ces désordres puissent continuer. Nous autres parents, nous n'avons pas de moyens de subvenir aux besoins de nos enfants. C'est la raison pour laquelle certaines parmi nos filles se livrent à la prostitution. Elles peuvent avoir besoin des sous-vêtements, des lotions ou des savons, mais les parents n'ont pas d'argent. Et lorsqu'elles voient leurs camarades bien habillés, cela les pousse à la débauche. Mettre fin à ces phénomènes est devenu un casse-tête pour les parents. D'autres se font même engrosser. Nous continuons à demander au gouvernement de nous réconcilier avec les membres de l'autre communauté pour que nous puissions rentrer chez nous.
Je l'ai annoncé au sommaire, 60 enfants orphelins sauvés de justesse de l'incendie de leur domicile par des voisins. Cela s'est passé vers 2h du matin ce mardi dans la commune d'Engaba à Kinshasa. L'orphelinat Lisanga Clisto, situé sur l'avenue Lobo, n'existe plus que des noms. Tous les bâtiments est parti en fumée en commençant par la chambre de la promotrice. Nourriture, mobilier et autres vêtements, le feu n'a rien épargné. Le bourgmestre de la commune d'Engaba lance un SOS aux gens de bonne volonté pour voler au secours de cet orphelinat. Aimé Lolinga est joint au téléphone par Alphan Poissa.
Des provisions, le dortoir des garçons, tout est parti. Donc, des archives, il n'y a plus rien. Je viens de passer la journée là-bas. Il manque de tout. Mais quand je dis de tout, ça veut dire qu'il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vêtements. Les enfants, elle-même la promotrice, n'a que les vêtements qu'ils avaient pour dormir. Les enfants, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de blessés. Les voisins sont intervenus pour sauver les enfants. Donc, sur ce plan-là, en tout cas, les enfants sont en bon état. Choqués, mais sans blessure, ni brûlure, ni rien. En tout cas, je lance un SOS, sauver cet orphelinat. Cette dame n'a pas d'aide de l'État. Elle a à peu près 60 enfants. Le plus jeune a une semaine et le plus vieux a à peu près 20 ans. C'est vraiment un orphelinat qui vit par les dons, par les aides des gens comme vous et moi, qui de temps en temps donnent un petit quelque chose pour sauver. Les enfants vont dormir à la belle étoile. Il n'y a plus de matelas, plus rien. Même les uniformes, les cahiers, tout est parti en fumée.
Et puis cet appel aux jeunes filles d'Elitouri, jeunes filles, l'armée est aussi ton affaire. C'est l'essentiel du message de sensibilisation pour le recrutement de jeunes filles qui s'est clôturé lundi en Ituri. Cette campagne a été organisée par une délégation de la section genre des forces armées de la République venue de Kinshasa avec l'appui des organisations féminines locales. Ces structures ont initié plusieurs rencontres pour convaincre des centaines de filles à saisir cette opportunité. Cela en vue d'exploiter leurs atouts au sein de l'armée et à défendre l'intégrité du territoire congolais. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Cette campagne a débuté au siège de l'organisation Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral Sophie Padi. Ici, les femmes ainsi que les jeunes filles membres de cette organisation féminine ont été outillées sur les fonctionnements de l'armée congolaise, mais surtout les opportunités qu'offre cette institution de la défense nationale, notamment des formations dans divers domaines, santé, justice, hôtellerie, etc. Ce qui constitue une passe en or pour les jeunes filles et surtout celles qui ont un diplôme d'État. L'une d'elles.
Nous, les filles diplômées, les filles qui chantent. Le travail n'est pas seulement qui est à la maison, déambuler pour ne faire rien, avec un travail aussi pour notre pays. Ça m'a donné du courage d'avoir une femme dans une tenue.
La générale Justine Chéché, responsable de ses services au sein de l'armée, a déclaré que l'effectif des jeunes filles de l'Ituri est insignifiant dans l'armée. Elle les exhorte à ignorer tous les préjugés sur cette institution et de privilégier l'intérêt de la nation. Générale Justine Chéché.
Les filles ne se présentent pas beaucoup. À partir de maintenant qu'on ait plus de filles bien éduquées. Pour servir la patrie, il faut des bons éléments.
Des centaines de filles ont participé à cette sensibilisation avec l'appui du contingent marocain de la MONUSCO et d'autres organisations de défense des droits des femmes au pays. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pourquoi d'importantes quantités de minerais continuent à échapper au contrôle de l'État? Les sources que nous avons contactées reconnaissent que des exploitants ou les creuseurs artisanaux à la recherche de leur survie ne visent qu'à écouler leur production au plus offrant et plus vite possible sans se soucier de la destination de ces minerais. Nos sources évoquent aussi la question de la rémunération des agents de services commis à la surveillance et contrôle du trafic minier. Plus souvent, ces agents sont exposés à la corruption avec d'importantes sommes et ne peuvent y échapper. Sifa Maguru nous en parle.
Dans la région, tout le monde est au courant que la faute des minerais passe, entre autres, à la grande barrière entre Goma et Gisenyi sous plusieurs formes, mais surtout par les collines de Minova et Kalehe pour sortir par Kasunyu au bord du lac Kivu. Actuellement, vient s'ajouter la direction Mushaki, Kibati, Kibumba jusqu'au Rwanda. Ici, les minerais sont transportés par moto, puis stockés dans un dépôt à Kibumba en attendant l'arrivée des camions en provenance du Rwanda pour les récupérer. À ce sujet, le coordonnateur des activités minières artisanales dans les Massissi nous explique par exemple que pour les cas des Rubaya, cette fraude est due à l'inefficacité de la politique gouvernementale dans l'exploitation des Rubaya. Honorable Justin Daichimie.
Depuis que Madame la ministre a retiré, a déchi le PE 4731, elle n'a pas créé directement ou bien réattribué ce PE à aucune autre société pour que cette société puisse gérer les coopératives qui encadrent les exploitants artisanaux dans cette partie du pays. Cela amène encore à des exploitants à chercher à aller se trouver d'autres marchés ailleurs.
Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, la Société africaine des constructions et d'asphaltage au Congo, Safricas, qui exécute les travaux du programme de développement de 145 territoires, met en garde tous ceux qui salissent son nom dans les dossiers d'impayement des ouvriers. Dans une mise au point faite lundi dernier, l'avocat conseil de cette société, Safricas, demande à ceux qui revendiquent leurs droits de s'adresser à leurs contractants et non à Safricas. Maître Justin Mouindo Mouchekourou explique au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes là pour mettre en garde tous ces gens qui prétendent avoir servi Safricas. Au fait, dans le cadre d'exécution du programme PEDEL, Safricas a contacté des prestataires. Et ce sont ces prestataires qui ont engagé certains ouvriers pour l'exécution. Et lorsque ces prestataires n'ont pas honoré leurs engagements vis-à-vis des ouvriers, Safricas ne peut même pas être concerné. Donc nous disons que les ouvriers et les tout-travaux et certains ingénieurs qui ont été engagés par ces prestataires n'ont pas le droit de s'en prendre à Safekas. Nous sommes au Congo, ça fait plus de 100 ans. On travaille avec l'État congolais depuis bien longtemps. Et partout où nous passons, nous sommes respectueux de nos obligations. La personne qui doit répondre à leurs exigences, c'est leur patron qui les a engagés sur les différents sites. Même la Safekas est victime du comportement de ce prestataire. Ils peuvent se mettre avec nous en tant que perdants aussi dans cette histoire, qu'on puisse constituer un groupe solide pour que ce fameux prestataire soit poursuivi, parce que nous sommes dans un état de droit, et lorsque quelqu'un ne respecte pas ses obligations, il y a les instances judiciaires pour le faire respecter par force.
Signalons qu'il y avait quelques ouvriers qui réclamaient leur salaire en indexant la société Safricas, et ils ont même saisi l'autorité provinciale pour cette fin.
Actualité internationale.
Au Sénégal, un premier conseil des ministres pour donner les grandes orientations a eu lieu. Le nouveau gouvernement a tenu son premier conseil des ministres ce mardi 9 avril, une semaine après l'investiture du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au lendemain de la passation de pouvoir entre les nouveaux premiers ministres Ousmane Sonko et son prédécesseur Sidiki Kaba.
L'invité.
Notre invité est le point focal au Nord Kivu des travaux financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est de la RDC, Step 2. Henri Kitenge parle des dispositions prises pour la reprise des travaux d'assainissement et de réhabilitation des rues et avenues de la ville de Beni après 5 jours d'arrêt. C'était à la suite de la grève de certains bénéficiaires qui réclamaient leur salaire. Henri Kitenge s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Henri Kitenge, bonjour.
Bonjour.
La CSSP a suspendu ses activités à Beni depuis le 3 avril. Qu'est-ce qu'on peut en savoir plus, surtout à quand la reprise des travaux?
Bon, comme vous l'avez peut-être appris, il y a eu un mouvement de soulèvement des encadreurs, précisément des chefs d'équipe, qui revendiquaient leurs 4 mois d'arriéré. Non seulement 4 mois d'arriéré, ils sont allés loin, ils ont même revendiqué la majoration des salaires. Bon, comme vous le savez, nous, avant de recommencer les chantiers, nous faisons une réunion avec tous les encadreurs, c'est-à-dire chefs d'équipe, chefs de chantier, AST et PFS, où nous leur donnons les informations générales. À l'issue de cette réunion, moi-même, je leur avais dit que nous venons de changer de banque, donc notre banque désignée devient maintenant la Rabobank. Alors, tout encadreur devrait aussi changer son compte de d'Equity à la Rabobank, parce qu'à la phase 2, tous avaient des comptes chez Equity.
Avec le fonds social.
Avec le fonds social. Évidemment, bon, ils n'ont pas voulu, ils ont raison. Les comptes individuels, ils ont prétexté que non, à la Rabobank, les frais étaient beaucoup plus exorbitants que chez Equity. Alors, je leur ai dit aussi que par rapport aux transactions, donc, si nous devons vous payer en passant par Equity, donc, on doit ouvrir un compte de transition. C'est-à-dire, l'argent quitte Rabobank, ça transite chez Equity. Et Equity va maintenant créditer vos comptes individuellement. Ils ont dit qu'ils allaient patienter, il n'y avait pas de problème. Bon, pour ce cas qui a débordé l'avance, on avait payé depuis le 7 mars, on a déposé les ordres de virement chez Rabobank. Rabobank a débité notre compte pour transférer l'argent chez Equity le 12, mais ça a pris tellement de temps pour que ça arrive dans les comptes d'Equity, ce n'est arrivé que le 26. Et quand l'argent est arrivé le 26, bon, déjà, il y avait déjà des manifestations. Bon, et 2 jours après, on a commencé à payer tout le monde.
Et là, vous parlez de 2 mois, décembre et janvier.
Décembre et janvier. Donc, pour février et mars, ils n'ont même pas encore fini. Parce que pour être payé, il y a des préalables. D'abord, il faut présenter un rapport qui est validé par votre superviseur et introduire une facture. Pour le mois de mars, nous n'avons même pas encore fait ça. Et même les rapports n'étaient même pas encore transmis à la coordination provinciale. Il y a 4 jours maintenant qu'on venait de transmettre leur état de paye pour le mois de février et de mars. Et nous sommes déjà dans le processus de paye.
Alors, aujourd'hui, vous avez réuni les encadreurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit?
D'abord, c'est pour venir manifester notre mécontentement parce qu'ils étaient au courant comment les choses devaient se passer. Donc à un certain niveau, ils devaient s'assurer, attendre ce retard-là. Et puis de deux, même quand on avait déjà payé les 2 mois, il y a les groupes de meneurs, là, les groupes de footeurs de troubles, ont continué à faire des troubles jusqu'à casser les vitres des bureaux. Il y a même des chefs d'équipe qui sont allés jusqu'à sur les chantiers pour aller démotiver ceux qui travaillaient. Il y a même un chef de chantier qui était victime, on a même cassé son laptop. Alors ça, ce n'était plus une revendication. Donc les revendications, il y a des normes. Nous avons nos voies de communication. On ne refuse pas aux gens de revendiquer. Pour revendiquer, c'est plus simple dans chaque chantier. chantier, il y a la boîte à gestion. Ils ont chaque vendredi une réunion de mécanisme de gestion des plaintes qu'ils tiennent chaque vendredi avec le chef de quartier et tout ça. Donc c'est aussi un moyen pour remonter les plaintes. Ils peuvent aussi appeler même la coordination parce qu'il y a les numéros verts pour un appel gratuit. Mais curieusement, quand il y avait cette manifestation-là, nous avons même proposé qu'on puisse faire une vidéoconférence avec. Ils ont refusé. Nous avons même demandé aux superviseurs qui sont sur place au bureau zone de les approcher pour savoir quels étaient les problèmes. Ils ont refusé. Alors nous avons compris que c'était un groupe de fouteurs de troubles tout simplement. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de réclamer.
Et qu'est-ce qu'il en ressort?
Bon, d'abord, même pour faire une grève, il y a une procédure. Quand la grève est déclarée sauvage, elle est punissable. Donc, c'est ce qu'ils ont fait là. Donc, bon, ils ont fait des choses. Quand vous refusez déjà votre employeur, c'est-à-dire que vous ne le reconnaissez pas, c'est-à-dire que vous les révoquez. Donc, vous n'allez plus continuer à travailler avec. Tous ces meneurs de troubles là, tous ceux qui sont passés des chantiers pour intoxiquer, casser, même les chantiers de Malépé, on a volé même des outils. Tous ces gens-là, nous avons leur liste, nous avons identifié, nous allons résilier carrément leur compte.
Alors, nous rappelons que ces projets financés par la Banque mondiale, ces projets du gouvernement, et qui bénéficient à plus d'un millier de personnes vulnérables dans la ville, cependant, les travaux sont suspendus. À quand la reprise?
Maintenant que nous avons identifié les meneurs, dès ce mercredi déjà, et nous allons remettre les gens sur les chantiers.
Et qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de la cellule pour prévenir ces genres d'incidents?
Ils ont signé des contrats, ils doivent être payés, mais la seule voie pour être payé et rapidement, c'est avoir un compte chez la banque. Mais ceux qui vont s'entêter de garder leur compte chez Equity, c'est leur droit. Nous, on ne fait pas une publicité d'une banque, mais ils vont s'assumer, ils vont attendre le temps que ça prendra pour que leur argent arrive dans leur.
Et par rapport à la hausse du taux des frais de maintien des comptes au niveau de Rawbank, est-ce que vous ne pouvez pas plaider à leur compte?
Nous sommes déjà en discussion pour parler avec la Rawbank.
Henri Kitenge, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette session de Vos Nouvelles sur Radio Capi. Supervisée et coordonnée par Alain Hurong Mouchinge et Jude Bilandan Kumar. Jean-Noël Mokondo, la mise en onde pour vous à la présentation. Patience Ngalula Mbombo, chers auditeurs et auditrices, merci de l'avoir suivi.